Petite vie de Saint Ignace de Loyola, un contemplatif dans l'action, le fondateur des Jésuites. Un ouvrage du père jésuite Albert Longchamp, paru aux éditions Artege Poche. Une lecture proposée par Maïté Iratsoki.
Chapitre 3, à Montmartre, un soir. Citation. Je souhaite et je désire, et c'est ma décision délibérée, pourvu que ce soit votre plus grand service et votre plus grande louange, vous imiter en subissant tous les outrages, tout opprobre et toute pauvreté, aussi bien effective que spirituelle, si votre très sainte majesté veut me choisir en cette vie et en cet état. Fin de citation. Inigo avait-il déjà écrit, lorsqu'il arrive à Jérusalem, cette généreuse offrande proposée par les exercices? Si ce n'est pas le cas, le séjour en Terre Sainte et ses conséquences immédiates ont pu l'inspirer, car Sa Majesté va combler le pèlerin de ses largesses. Ô Jérusalem, grande illusion! La Palestine est en fait occupée par les Turcs, qui la rançonnent, et par les franciscains, qui la régentent. Les pèlerins doivent vaquer à leur dévotion au pas de charge et au prix fort. L'itinéraire des visites est strictement ordonné. Cénacle, Via Crucis, Calvaire, Saint-Sépulcre, puis le départ à Béthanie, Bethléem, Jéricho. Au Jourdain, tous veulent se baigner dans les eaux sanctifiées par le baptême du Christ. Mais les guides turcs s'impatientent. Une simple ablution doit suffire. Sur le chemin du retour à Jérusalem, le groupe passe au pied du mont de la Quarantaine, où Jésus affronta les tentations du diable. Certains veulent se rendre au sommet, hors de question. Le programme, au demeurant, ne s'embarrasse pas de scrupules archéologiques. Ici, l'endroit où le Christ mangea l'agneau pascal. Et là, le foyer où l'agneau a été cuit. À Bethléem, les pèlerins ont pu se recueillir devant un trou dans la terre. C'est là, leur fait-on observer, que s'est incrustée l'étoile des mages. Inigo n'oppose aucune objection à ce genre de précision. Il en est lui-même très friand. S'étant aperçu qu'il n'a pas bien observé sur le mont des Oliviers où les pèlerins vénéraient la pierre de l'Ascension et les traces du Christ, de quel côté était le pied droit, de quel côté le pied gauche, il s'empresse d'y retourner pour vérifier la chose. En dehors de ses préoccupations historiques, Inigo songe plus encore à mettre au point la deuxième partie de son plan, soit l'établissement à Jérusalem. Pour ce faire, il se présente avec ses lettres de recommandation au père gardien du mont Sion, qui se montre très ennuyé. Les frères ont si peu de moyens. Il faut même renvoyer des moines en Europe. Simple malentendu, explique notre pèlerin. Il ne veut pas entrer au monastère, mais demande seulement d'être entendu de temps à autre en confession. Le gardien s'adoucit, tout en précisant que la décision finale revient au père provincial, lequel décourage fermement Inigo. D'autres pèlerins ont voulu tenter l'expérience, ils sont morts ou prisonniers. Non, vraiment. Inigo insiste. Le provincial reste inflexible et menace l'importun d'excommunication. Il peut même lui montrer les bulles pontificales qui lui accordent ce pouvoir. Inutile. Inigo a compris. Le plan Terre Sainte s'écroule. Dieu l'appelle sûrement ailleurs, à moins que l'implantation à Jérusalem soit pour une date ultérieure. C'est dans cet espoir, il va s'y attacher, nous le verrons avec une incroyable ténacité, que le pèlerin reprend la mer le 3 octobre 1523. Il avait cru s'établir pour toujours au pays de Jésus, il sera resté moins d'un mois. Que faire? Quand les pèlerins arrivent à Chypre, le Negrona est déjà reparti pour Venise. les compagnons de Inigo tentent de le faire admettre gratuitement à bord de l'un des trois autres navires en partance pour l'Italie. Le commandant du plus imposant d'entre eux trouve la plaisanterie un peu forte. Puisqu'on lui vante la sainteté du pauvre pèlerin, qu'il fâche la traversée comme Saint Jacques l'a faite, c'est-à-dire en barque sans rame ni voile. Inigo est accueilli finalement sur une frêle embarcation. Mais tandis que l'orgueilleux vaisseau pris dans la tempête coule au large de Chypre, le petit bateau accoste dans les Pouilles à la fin de décembre. En janvier 1524, Inigo est à Venise, d'où il repart à pied vers Gênes. Sa décision est prise. Depuis l'échec du séjour palestinien, il a eu largement le temps de réfléchir. Quid agendum ? Que faire ? À la fin, il inclinait davantage à étudier quelque temps pour pouvoir aider les âmes et décider d'aller à Barcelone. Retour à la case départ. Un retour qui ne manque pas de piment. À Ferrare, un pauvre lui demande l'aumône. Inigo lui tend une marquette menu-monnaie. Au quêteur succède un autre. Inigo se sépare d'une pièce de plus grande valeur. Survient un troisième qui reçoit un Jules, pièce frappée à l'effigie du pape Jules II. Le suivant tout pareil, et c'est la ruée. Beaucoup de pauvres vinrent ensemble demander l'aumône, il répondit qu'ils veulent bien lui pardonner qu'il n'avait plus rien. Visiblement, l'argent tient une grande place dans la vie de Ignace de Loyola. Il passe une partie de son temps soit à chercher de l'argent, soit à s'en débarrasser, comme s'il flairait le poison mortel dans l'accumulation de la richesse. Cette attitude va rester une constante de son esprit. Louis Gonçalves de Camara note dans son mémorial écrit en 1555, un an avant la mort d'Ignace, citation, « Notre père, Ignace, était souverainement opposé à toute forme d'avarice. » Fin de citation. La pauvreté ignatienne est une preuve d'attachement à Jésus qui a choisi d'être pauvre et les signes d'espérance évangélique effective. Elle n'est pas recherchée pour elle-même, mais voulue par nécessité d'imiter le Christ, d'agir comme lui. Cette volonté de conformité à l'image du Christ se retrouve dans une autre aventure du pèlerin en chemin vers Gênes. Il doit alors traverser la Lombardie, pays en guerre. François Ier et Charles Quint y luttent pour l'occupation du duché de Milan. Des soldats espagnols conseillent charitablement à Inigo d'éviter les mauvaises rencontres. Naturellement, il n'en tient nul compte et tombe sur des troupes impériales qui le prennent pour un espion, lui font subir une fouille corporelle en règle et le conduisent à leur capitaine. Loin de se sentir outragé, Inigo éprouve une joie intense, comme une représentation du Christ quand on l'a mené au Golgotha. Il ne s'agit pas d'une vision. Le prisonnier est dans une situation identique à Jésus condamné. Il n'a plus besoin de Jérusalem pour se représenter la scène du Golgotha. Le voici humilié avec le Christ humilié. Cette proximité le comble. Il ne désire rien d'autre. Ce qui ne l'empêche pas de garder les pieds sur terre. Tandis qu'on le conduit vers le capitaine, Inigo songe à un détail pittoresque. Voyons. Devra-t-il dire « Sa Seigneurie » à ce monsieur ? Non. Le Seigneur Jésus-Christ seul mérite un tel titre. Donc, arrivé devant l'homme qui a sur lui droit de vie et de mort, il ne se découvre pas, ne s'incline pas et ne répond que par bribes. Une astuce connue de tous les prisonniers de guerre. La ruse fonctionne à merveille. Le capitaine le prend pour un fou et le jette à la rue. Le même soir, Inigo se retrouve cette fois entre les mains des soldats français. Scénario identique. On le conduit au capitaine qui l'interroge. Mais, oh surprise, les deux hommes se découvrent originaires de la même région. Solidarité basque oblige. Le capitaine ordonne de bien traiter son prisonnier qu'il fait manger avant de le relâcher. Peu de temps après, Inigo rejoint Barcelone par la mer, non sans avoir encore risqué la catastrophe. Son bateau échappe de justesse au redoutable André Doria, qui, passé de la flotte française à celle de l'empereur, écume la Méditerranée. Voici Inigo dans la capitale catalane, où il cherche aussitôt à se mettre à l'étude du latin. Rosa, rosé, la rose, comme un gamin, à 33 ans. Pourquoi ce choix ? Il le dit lui-même. Citation. « Pour aider les âmes. » Fin de citation. Depuis l'illumination de Cardonnerre, il est sûr des enseignements reçus directement de Dieu. Il a consigné ses leçons et sa méthode dans le cahier des exercices. Mais l'apostolat qu'il envisage doit être conforme à l'Écriture et à la tradition et confirmé par l'Église. Or, l'Église parle latin. Inigo ne semble pas à cette date avoir déjà envisagé le sacerdoce. En revanche, il commence à ressentir l'impérieux désir, citation, d'unir quelques personnes en sa compagnie pour réaliser le dessein qu'il avait désormais d'aider à réformer les fautes qu'il voyait dans le service divin et pour qu'elles soient comme les trompettes de Jésus-Christ. Fin de citation de Paul Anka. Après 2 ans de grammaire latine à Barcelone, son maître le juge apte à étudier la philosophie et lui recommande l'université d'Alcalá. L'autobiographie ne consacre que 3 ou 4 lignes aux études d'Inigo à Alcalá, mais s'étend longuement sur ses premières tentatives apostoliques. Une affaire qui va le conduire tout droit dans le collimateur de l'Inquisition.
Petite vie de Saint Ignace de Loyola, un contemplatif dans l'action, le fondateur des Jésuites. Un ouvrage du père jésuite Albert Longchamp paru aux éditions Artege Poche. Une lecture proposée par Maïté Iratsoki.